France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Fanny Richer, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Anouk Millot et Loïc Antoine. À la réalisation, c'est Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, Paul Guig. Un mois après la conférence d'Alger sur les crimes du colonialisme, Culture Monde s'intéresse cette semaine aux demandes de réparation exprimées par les pays africains et caraïbéens. Hier, nous évoquions l'Algérie qui demande pour la première fois depuis 1962 des réparations. Mercredi, il sera question du Niger qui entend réécrire son histoire et faire payer la France pour les crimes commis depuis la fin du 19e siècle. Jeudi, nous évoquerons le long combat de la Jamaïque et de ses voisins auprès du Royaume-Uni sur la question de l'esclavage. Ce matin, direction la Namibie, un siècle après le génocide perpétré par les troupes coloniales allemandes, les Herero et les Nama veulent continuer à se faire entendre.
Les Allemands sont venus dans notre pays pour voler nos terres Hereros et Namas. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos richesses et ils ont assassiné notre peuple.
Il faut pouvoir nommer clairement les événements liés au colonialisme allemand en Namibie, notamment ceux de la période allant de 1904 à 1908. Nous qualifierons maintenant officiellement ces événements pour ce qu'ils ont été, un génocide. Ce faisant, nous reconnaissons également notre responsabilité historique.
Nous ressentons tous leur mémoire. Encore aujourd'hui, la Namibie est l'un des pays les moins peuplés. Mais à quoi s'attendre lorsque, pendant cette période, nous avons perdu un si grand nombre de nos concitoyens ?
Ce 28 mai 2025, la Namibie commémorait pour la première fois ce qu'on appelle aujourd'hui le premier génocide du XXe siècle. Dans les jardins du Parlement, à Windhoek, la capitale, des bougies avaient été allumées tandis que la présidente, Netumbo Nandi Ndwaitwa, rendait hommage aux victimes. 70 000 personnes appartenant aux communautés Herero et Nama ont été tuées entre 1904 et 1908 par l'armée coloniale allemande, des populations qui s'étaient révoltées contre l'oppression du régime colonial et qui subirent en retour des exécutions de masse, le travail forcé, les viols et les camps de concentration. En 2021, après plusieurs années de tergiversation, le ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas, prononçait alors ce mot « génocide ». Une reconnaissance officielle qui devait poser les bases de la réconciliation entre l'Allemagne et la Namibie. Berlin, qui refuse de parler de réparation, a promis des fonds d'aide au développement, mais les négociations piétinent. Et ce, alors qu'en Namibie, les descendants des victimes estiment que leur voix n'a pas été suffisamment prise en compte. Alors quelle place pour la mémoire du génocide des Nama et des Herero en Namibie plus de 100 ans après les faits? Quels sont les enjeux historiques et diplomatiques de la reconnaissance exprimée par l'Allemagne en 2021? Pourquoi les descendants des victimes peinent-ils encore à se faire entendre? On discute de toutes ces questions avec notre invitée Christine Degemeau. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes professeure émérite de civilisation et histoire des idées allemandes à l'université de Tours, spécialiste de l'Empire et du colonialisme allemand et des études postcoloniales et impériales. Vous êtes l'autrice de « Femmes et génocide, la colonisation allemande du sud-ouest africain en Namibie, 19e-21e siècle ». C'est paru tout récemment aux éditions Hermann. Et puis, pour compléter cette présentation, je précise que vous avez organisé le premier colloque universitaire sur le colonialisme allemand. C'était en 2007. Alors, pour commencer cette discussion, je voudrais poser peut-être une question toute simple. Pourquoi et comment expliquer qu'il a fallu attendre 2025, le 28 mai 2025, pour qu'une première commémoration officielle ait lieu en Namibie, alors que le génocide a été reconnu en 2021 et qu'avant cela, il y a aussi eu déjà un long processus, on va y revenir, de reconnaissance? Pourquoi seulement maintenant pour une première commémoration?
Eh bien, je crois que les choses s'expliquent par le fait que les survivants de ces communautés, les descendants, sont aujourd'hui fort peu nombreux et que ils ne sont pas, enfin, ou du moins ils pensent ne pas être bien représentés par le gouvernement namibien, qui n'est pas de la même ethnie que les Herero et les Nama. Ce sont en effet les Ovambo du nord de la Namibie plutôt, qui ont mené d'abord les guerres d'indépendance contre le protectorat sud-africain qui existait depuis 1920. Et ayant mené donc ce combat pour l'indépendance, ils ont ensuite été ceux qui ont pris les rênes du pouvoir en quelque sorte. Et les survivants Herero et Nama étant fort peu nombreux, si vous voulez, n'ont pas été entendus. Le gouvernement Ovambo a mené sa propre politique et notamment une politique relativement favorable à la République fédérale d'Allemagne qui soutenait la Namibie par des subventions de l'aide au développement, etc. Donc, commémorer, si vous voulez, les génocides n'étaient pas une priorité pour le gouvernement namibien. Pendant très longtemps, les choses ont évolué, ont beaucoup évolué jusqu'en 2025.
Est-ce à dire, si je vous suis, c'est que pour le gouvernement actuel, l'ennemi ou l'ancien joug colonial est davantage associé à l'Afrique du Sud, qui a exercé une domination sur la Namibie jusqu'en 1990, c'est assez récent, davantage que l'empire allemand?
Disons que oui, il a fallu se libérer donc du joug sud-africain et ça a pris très très longtemps, de très nombreuses années, tandis que l'époque coloniale semblait lointaine, enterrée et non prioritaire, on va dire, hein, pour le gouvernement de Windhoek.
Alors, néanmoins, il y a ces commémorations qui ont été organisées cette année, en 2025. Mais la cérémonie a été critiquée par une partie des descendants Herero et Nama. Certains dirigeants de ces ethnies ont refusé d'y participer. Le choix de la date a été contesté. Les lieux ont été contestés. Pourquoi ?
Alors, la contestation vient du fait que, donc, les représentants des ethnies Herero et Nama, le NTLA pour les Nama et le OTA pour les Herero, n'ont pas été associés aux prises de décision du gouvernement, ni même à la préparation de cette commémoration du mois de mai 2025. Donc, ils se sont sentis exclus. Une fois de plus, parce que c'est le sentiment profond qui règne dans ces deux communautés. Nous sommes exclus de tout le processus de reconsidération du génocide, des génocides, et ça ne peut pas rester en l'état. Il faut protester, donc ils contestent. Alors les lieux aussi, parce que Windhoek, ce n'est pas le lieu principal des exactions, des génocides. C'est un lieu, les jardins du Parlement, qui met plutôt en valeur effectivement le gouvernement actuel de la Namibie et qui ne met pas en valeur les communautés Herero et Nama.
Et puis la date qui a été choisie, c'est celle de la date de la fermeture des camps de concentration, oui, le 28 mai. Mais les Herero et les Nama auraient préféré d'autres dates.
Oui, ils pensaient notamment au 2 octobre, qui est la date anniversaire de l'ordre d'extermination promulgué par le général von Trotta, qui annonce que les Herero et les Herero à l'époque seront poursuivis. On tirera sur tous ceux qui opposeront une résistance, femmes et enfants compris. C'est donc ce 2 octobre, cette proclamation d'extermination, cette volonté d'extermination qui a été d'ailleurs à l'époque approuvée par l'état-major à Berlin, général von Schlieffen, et même par le Kaiser, Guillaume II. Cette date du 2 octobre est une date épouvantable dans toutes les mémoires, qui signifie encore quelque chose.
We did not speak about the genocide at all. I think that time the focus was on gaining independence.
Nous ne parlions pas du génocide à cette époque. Je pense qu'à ce moment-là, l'important, c'était de gagner l'indépendance.
Of course, in homes,
Bien sûr, dans nos foyers, on en parlait individuellement, mais pas collectivement. Et après l'indépendance de la Namibie, je pense que nous avons essayé de trouver nos racines.
It's only since 2003 that we started to openly talk about it.
C'est seulement depuis 2003 que nous avons commencé à en parler ouvertement. Nous nous sommes organisés en tant que communauté pour une prise de conscience, pour nous informer sur ce qui s'était vraiment passé, afin que chacun puisse comprendre de quoi il s'agissait.
Nous ne parlions pas du génocide, explique Esther Mwinjange, qui est l'ancienne présidente de la Fondation du génocide des Herero, ici au micro de RFI en 2016. Alors, comment, avant les années 2000, comment la mémoire a-t-elle été transmise de 1904-1908 à aujourd'hui, si on n'en parlait pas ?
Alors, moi je dirais qu'on n'en parlait pas officiellement, mais dans les communautés Herero et Nama, le souvenir n'a jamais disparu, bien au contraire. Les toutes premières commémorations, si vous voulez, ont été faites par les Allemands eux-mêmes, curieusement. Il y a eu la grande bataille du Waterberg, du 11 août 1904, qui a vu donc les Herero encerclés et repoussés dans le désert du Omaheke, du Kalahari, où ils ont péri de soif et de faim, et où ils étaient accueillis quand ils essayaient de ressortir du désert par les mitrailleuses allemandes. Il y a eu donc cette grande bataille en 1904, et dès 1905, il y a eu des commémorations allemandes, aussi cimetière du Waterberg, où étaient enterrés les soldats allemands qui étaient tombés dans la bataille. Alors, ils étaient vraiment peu nombreux comparés aux victimes Herero, mais néanmoins, il y avait un cimetière au Waterberg, et dès 1905, les Allemands ont commémoré régulièrement la perte de leurs soldats. Dans les années 30, à l'époque national-socialiste, 33, 34, 35, il y avait des commémorations organisées aussi par les Allemands affiliés au parti national-socialiste.
Et du côté des Herero et des
du côté des Herero, il y avait des commémorations également au Waterberg, mais pas au même endroit, pas au cimetière allemand, hein, qui se faisaient, mais entre à l'intérieur des communautés, si vous voulez. Ça n'avait pas de résonance particulière au niveau gouvernemental ou international. On ne le savait pas. C'est par la suite, ces commémorations ont pris de l'ampleur, notamment à Okahandja, qui est le siège un petit peu de l'ethnie Herero maintenant, à d'autres endroits, Omaruru, etc. Et de plus en plus, ces commémorations ont revêtu de l'importance. Elles étaient filmées par la télévision namibienne, parce que ça donnait l'occasion aussi à des fêtes, à des retrouvailles, à des discussions entre survivants ou descendants des survivants plutôt, hein, des discussions sur leur culture, sur leur passé et sur les génocides.
Le passé colonial allemand, il est assez peu connu. Il faut qu'on prenne le temps de redonner quelques informations clés. C'est en 1884-85, donc plus tardivement que les autres puissances européennes, que l'Empire allemand prend possession de ce qu'on appelle à l'époque le sud-ouest africain. De quel type de colonie s'agissait-il ? Est-ce que c'était une colonie ? Dans quelle mesure c'était une colonie de peuplement ?
Oui, alors les Allemands, comme vous le savez peut-être, n'avaient pas de colonies ultramarines, et depuis toujours, notamment avec Bismarck, ils avaient une certaine réticence à chercher des colonies hors de l'Europe. Et puis, il y a un basculement qui se produit parce que les armateurs, notamment des grandes villes comme Hambourg et Brême, réclament aussi des comptoirs, réclament le soutien du gouvernement allemand, et il y a une propagande pro-coloniale qui se met en place. Bismarck va changer d'avis, le chancelier, et à la conférence de Berlin, qui a lieu de novembre 1884 à février 1885, l'Allemagne exprime son souhait de s'établir, elle aussi, outre-mer, et notamment en Afrique. Donc, le gouvernement va envoyer des explorateurs, des commissaires sur les côtes africaines. Et on regarde, déjà à la conférence de Berlin, on regarde un petit peu quelles sont les zones soi-disant non occupées, non peuplées, hein, qui pourraient être encore disponibles.
Soi-disant oui. Non peuplées, car évidemment elles ne sont pas. Elles sont peuplées. Et donc c'est une exploitation des richesses locales qui se met en place à ce moment-là, avec un régime autoritaire très, très strict du travail forcé notamment. Une révolte éclate en 1904. Elle est menée par le chef guerrier Samuel Maharero. Les Herero et les Namas se rebellent à ce moment-là contre les spoliations dont ils sont victimes. Ce sont des peuples nomades. Est-ce que c'est cette répression qui va conduire ensuite au génocide ?
Alors, je voudrais quand même préciser une chose. Au départ, si vous voulez, oui, ça doit être une colonie de peuplement. L'idée, c'est de créer une Allemagne nouvelle en Namibie. C'est vraiment ce qui fait la distinction de cette colonie par rapport aux autres. Togo, Cameroun et Tanzanie, qui à l'époque correspondaient à l'Afrique orientale, avec des parties du Burundi et du Rwanda. En Namibie, on pense qu'on va pouvoir vraiment envoyer de la population allemande, qui est en surplus, trouver des débouchés économiques et pratiquer l'élevage extensif qui pourra, sur les marchés internationaux, rapporter beaucoup d'argent. Également, on envisage de se débarrasser des éléments révoltés en Allemagne, hein, des sociodémocrates ou des gens qui posent problème au plan politique, peupler cette nouvelle colonie. Donc ce sera bien une colonie de peuplement et d'exploitation aussi, puisqu'on va exploiter les terres.
Et donc cette exploitation provoque une révolte, laquelle est réprimée. Comment se met en place la mécanique génocidaire ? Je le disais tout à l'heure en introduction, il y a eu du travail forcé, des exécutions, des massacres, des camps de concentration également.
Oui, alors au départ, si vous voulez, la dynamique n'est pas génocidaire. Elle est autoritaire, certes, mais elle n'est pas génocidaire. Ce qu'on veut, c'est récupérer des terres. Or, les Herero possèdent une énorme partie du territoire sur lequel ils élèvent leurs troupeaux. Et il faut les contraindre à laisser leurs terres aux Allemands. Hein. Je dirais que le déclenchement du génocide se fait de façon au départ non préméditée, c'est pas intentionnel. Et ça se fait au gré des circonstances. On s'aperçoit que les Herero, qui sont considérés comme un peuple fier, riche, à l'époque, ils représentent 40% de la population et ce sont les plus riches du territoire du sud-ouest africain. On considère qu'il va falloir les mater. Et c'est là qu'intervient de plus en plus la violence, la brutalité. On crée en 1894 la Schutztruppe, qui est la troupe dite de protection. En fait, c'est une troupe coloniale. Hein. Et on va aussi implanter des fermiers allemands qui se montrent très très durs avec les Herero, notamment avec les Herero. Parce que ça commence avec les Herero. Les Namas ne rentrent dans la boucle génocidaire qu'en 1905, c'est-à-dire un peu plus tard.
Et en 1904, l'empereur Guillaume II envoie le général Lothar von Trotha pour mater la rébellion des Herero. Est-ce qu'il lui donne toute licence dans cette répression ? Que dit l'histoire aujourd'hui sur la responsabilité et les auteurs de cette répression qui va se transformer en génocide ?
Oui, l'armée qui est l'armée prussienne hein, au départ hein, réside dans la force des officiers qui ont une grande latitude d'action, hein, une grande possibilité d'agir. Et von Trotha s'est déjà illustré de façon cruelle à la fois en Chine où il a participé à la répression des Boxers et en Afrique orientale allemande où il a participé à la répression des Wahehe. Donc il a une réputation très très dure et il n'étonne personne qu'il sorte un décret hein, d'extermination le 2 octobre 1904. C'est tout à fait dans sa ligne.
En 1904, ma grand-mère était aussi à Okajira pendant la guerre entre les Allemands et les Herero. Et toutes les après-midi, quand on allait ramasser le bois pour le feu, elle se mettait à pleurer quand elle passait devant certains endroits. Elle pleurait parfois toute l'après-midi, tandis qu'on allait chercher du bois. Et je lui demandais toujours, « Mais pourquoi tu pleures toujours quand tu viens là ?» Rien que les viols, il y a tout un procès à mener en justice. Et puis les pensions. Tous ces pères allemands qui ont laissé des enfants ici devraient subvenir à leurs besoins. On est la troisième génération d'enfants ici.
Témoignage d'un membre de la communauté Herero, métis, qui évoquait pour France 24 les souffrances de sa grand-mère victime de viol. Est-ce que cet aspect-là a été aussi suffisamment documenté et reconnu, le viol des femmes Herero et Nama ?
Alors, on sait par les archives, notamment des missions, qui l'évoque, que les viols étaient monnaie courante, énormément de viols. Et les hommes qui résistaient pour protéger leurs femmes ou leurs filles étaient abattus. Donc là, il y a un fort ressentiment, effectivement. Et puis dans ce qu'on a appelé le Blue Book, c'est-à-dire recueil de témoignages contre la méthode allemande, on pourrait dire, hein, qui a été initiée au départ par les Sud-Africains à la demande de Londres, on a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Les viols ont participé largement à la révolte des Herero qui, en janvier 1904, ont assassiné une centaine de fermiers.
Vous mentionnez ce Blue Book qui est donc un rapport sud-africain puis britannique qui paraît en 2018 et qui documente les exactions commises à ce moment-là par l'Empire allemand. On sait aussi que von Trotha, le général von Trotha, a été critiqué à l'époque au sein même de l'Empire allemand pour ce qu'il faisait en Namibie. Mais par la suite, cette histoire va être oubliée. Comment est-ce possible ?
Oui, c'est tout à fait possible. Donc le Blue Book, c'est 1918. Hein.
Pardon, 2018, oui.
Voilà. Oui, alors, le récit des atrocités, parce que tirer sur des femmes et des enfants, les assoiffer dans le désert, et ensuite les conduire, les quelques survivants, en camp de concentration, cela s'est su en Allemagne. Et en 1907, il y a eu au Parlement, au Reichstag, des protestations véhémentes, notamment de August Bebel, le député socialiste, mais d'autres parlementaires, en disant que c'était inadmissible. La réputation de l'Allemagne était entachée, et on ne pouvait pas laisser des choses, de telles choses se perpétrer. Donc, ça menait d'ailleurs à un renouvellement, à de nouvelles élections, qu'on a appelé les élections Hottentot en 1907, qui a permis de faire émerger, disons, une politique un peu plus tolérante et un peu plus douce en Allemagne, notamment avec le secrétaire d'État aux colonies, Bernhard Dernburg, qui a changé un petit peu le cap. Donc en Allemagne, il y a eu une connaissance des faits. Mais par la suite, on va dire que le traité de Versailles, ayant jugé l'Allemagne indigne de posséder des colonies, a conduit au fait que la SDN a donné des protectorats aux Anglais, aux Français notamment, pour récupérer à leur compte les colonies, les anciennes colonies allemandes. Et en Allemagne, cela a été jugé absolument scandaleux. Pourquoi les Anglais et les Français avaient été de bons colonisateurs ? On ne leur reprochait rien, il n'y avait pas eu d'exaction. Apparemment, tandis que l'Allemagne était jugée indigne. Cela a nourri aussi un ressentiment contre le traité de Versailles et contre l'Europe occidentale, vraiment occidentale, c'est-à-dire franco-britannique, en Allemagne, qui a aidé, je pense, quelqu'un comme Adolf Hitler à se faire entendre.
Et cette confiscation des colonies allemandes en 1919, elle conduit aussi à un certain oubli de ce passé colonial pour l'opinion publique allemande, puisque dans le début des années 2000, quand les revendications de la Namibie, de certains acteurs en Namibie se font jour, eh bien, il y a comme une surprise du côté de l'opinion publique allemande. on découvre, on redécouvre, on ouvre les yeux sur ce passé colonial dont l'Allemagne se pensait exemptée.
Oui, alors là, c'est très facile, je crois, à comprendre. Entre-temps, il y a eu les crimes contre les Juifs, hein. Il y a eu l'horreur national-socialiste, la Shoah. Et donc, c'est ce problème de la Shoah qui va prendre, évidemment, la première place dans l'opinion publique. Il faut s'affronter à son propre passé. Il faut éventuellement se justifier ou faire des actions. C'est comme ça que, dès 1949, la République fédérale d'Allemagne prend contact avec l'État d'Israël et va payer des réparations au comité juif, etc., dès 1952. C'est donc la Shoah qui occulte le passé colonial africain, qui apparaît comme une question totalement secondaire et qui est oubliée. Et d'ailleurs, je voudrais dire, quand en 1960, le général de Gaulle est allé rencontrer le chancelier Adenauer en Allemagne, d'après des témoignages d'époque, le chancelier Adenauer aurait dit à de Gaulle, nous sommes bien contents de ne pas avoir à faire face à une décolonisation, comme vous en Algérie, parce que pour nous, le problème est réglé depuis longtemps.
Et d'ailleurs, il faut aussi préciser que c'est du côté de la RDA, de l'ex-RDA, dans les années 70, que des historiens commencent à se pencher sur cette période des colonies allemandes qui avaient été occultées dans le débat politique et public. Pourquoi en RDA ?
Alors, bon, la RDA, en 1966, sort un ouvrage qui fait date de Horst Drexler sur le génocide. En RDA, si vous voulez, on prend le parti de tous les opprimés, hein, et on veut, sur le plan international, se faire entendre. La RDA veut montrer qu'il y a une autre Allemagne. Une Allemagne communiste, hein, du bloc appartenant au bloc soviétique, d'une certaine manière, et il faut faire entendre la voix de la RDA. Donc, on peut dire aussi qu'il y a une certaine instrumentalisation du soutien aux anciens opprimés, aux anciens colonisés. Et on n'est pas étonné que les premières recherches se fassent en RDA, tandis qu'en RFA, on n'en parle pas, ou très très peu.
Et du côté de la... Pardon, je voulais juste encore poser une question sur l'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idée que l'Allemagne ait commis un génocide, le premier génocide du XXe siècle en Namibie, est-ce que c'est une idée qui fait consensus ou bien est-ce que ce fait historique est contesté par certains partis ou par certaines franges de la société ?
Oui, alors il faut quand même que je dise pourquoi ça revient dans les années 2000. C'est qu'en 2004, les Herero et les Nama veulent célébrer les 100 ans du génocide et il y a des commémorations dans les ethnies qui sont de plus en plus importantes. Et de ce fait, si vous voulez, ça prend tellement d'ampleur que même en Allemagne, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi parle-t-il d'un centenaire de génocide ? Il n'y a pas eu de génocide. De quel centenaire s'agit-il ? Et les Herero vont décider de porter plainte contre la RFA pour obtenir un pardon, une reconnaissance du génocide et des réparations. Ça, c'est décidé en 2004 et une première plainte est déposée en 2017 à New York, au South District New York, à la Cour de New York, parce que il existe un décret de 1976 qui permet à des pays étrangers de déposer une plainte internationale aux États-Unis, quand la plainte n'est pas possible entre deux États hors États-Unis. Ça n'était pas possible pour la Namibie de porter plainte à Berlin. Car la plainte n'aurait même pas été acceptée. Et si elle avait été acceptée, elle aurait été déboutée immédiatement.
Ces plaintes, elles sont déposées par les chefferies Herero et oui, Nama, vous le disiez donc à New York. Est-ce qu'ils sont appuyés par l'État namibien à ce moment-là ?
Alors, ils ne sont pas interdits de déposer plainte, mais il n'y a pas de soutien officiel. Non. Ce sont des plaintes qui viennent de ces communautés.
Alors, ces demandes seront finalement déboutées pour diverses raisons juridiques. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là, au début des années 2000, qu'un processus se déclenche parmi les différentes communautés de descendants des victimes ? C'est vraiment là que quelque chose commence à se mettre en place collectivement et non plus seulement à l'intérieur de l'intimité et des familles ?
Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, les Herero et les Nama, là, sont fermement décidés à se faire entendre. défendre de toutes les façons possibles. Et puis en Allemagne, donc on s'étonne un petit peu, mais on en prend conscience. Et du coup, la ministre allemande pour l'aide au développement se rend en 2004 aux commémorations du Waterberg en tant qu'allemande, représentant le gouvernement allemand. Et à la surprise générale, parce qu'elle n'était pas mandatée pour le faire, elle demande pardon pour les crimes commis et elle évoque un caractère génocidaire. C'est juste évoqué, mais elle demande pardon au nom de la République fédérale. Donc c'est une grande surprise, à la fois en Allemagne et en Namibie, on ne s'y attendait pas. Et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Joschka Fischer, qui est pourtant de tendance progressiste, on va dire, hein, c'est plutôt à gauche, la désavoue d'une certaine manière. Lui ne veut pas entendre parler de génocide ou de réparation. Mais ça y est, une balle a été lancée, si vous voulez, et en Allemagne aussi, on se dit « Ah, gros problème ».
Et c'est donc en 2021, le 28 mai, que l'État allemand reconnaît officiellement le génocide. On entendait un extrait de la voix de Heiko Maas en début d'émission. Ce mot-là est prononcé, la responsabilité de l'Allemagne est assumée. Néanmoins, l'État allemand refuse de parler de réparation. Il propose à la place un plan d'aide au développement, 1,1 milliard d'euros sur 30 ans, plus 50 millions pour une fondation pour la réconciliation. Où est-ce qu'on en est de la mise en œuvre de ce plan de développement et du versement de cet argent?
Il y a beaucoup de choses là à dire. Il y a eu d'abord un rejet des communautés Herero et Nama de cette idée. Et puis, les choses n'ont toujours pas réellement abouti, puisque en octobre 2025, c'est encore récent, les représentants Herero et Nama ont demandé qu'on accélère les négociations. Il fallait qu'on aboutisse, enfin. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'Allemagne a payé déjà depuis longtemps. Donc Heidemarie Wieserecht-Zöll, qui était cette ministre pour l'aide au développement, était en charge de verser tous les ans 23 millions de dollars à la Namibie. Mais ils ont trouvé que c'était tout à fait ridiculement bas.
Parce que, au titre de réparation
Non, au titre du développement, de l'aide au soutien. Jamais le mot de réparation n'est prononcé par l'Allemagne. Encore aujourd'hui, on bute sur ce terme parce que ça implique une reconnaissance morale.
Et ça qui a pourtant été faite, en 2021.
Oui, de fait, mais si vous voulez, il y a eu en 2021 effectivement cet accord germano-namibien qui reconnaît le terme de génocide, mais on n'emploie pas le terme de réparation. Ça ouvrirait aussi une boîte de Pandore pour les autres colonies allemandes qui pourraient réclamer de l'argent, qui seraient fondées à réclamer également de l'argent. Donc l'Allemagne élude systématiquement le terme réparation. Ça, c'est vraiment le dernier écueil, je dirais, important.
Est-ce que ça veut dire que ces plans d'aide au développement sont des formes de réparation qui ne disent pas leur nom? Pourquoi proposer un plan d'aide dans le sillage de la reconnaissance d'un génocide tout en refusant d'employer ce mot de réparation?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est l'idée, vous aurez de l'argent, mais on ne va pas plus loin que l'aspect financier. Demander pardon, la repentance, c'est encore très discuté en Allemagne. Les Allemands, pour beaucoup d'ailleurs, l'opinion publique n'est pas vraiment au courant de ce qui s'est passé. Se demande si le terme de génocide est bien approprié. C'est tout à fait contesté, même chez les universitaires. Je dois dire que moi, quand j'en ai discuté au début de mes recherches, bien des universitaires allemands me disaient « non, il n'y a pas eu de génocide ». Et il y en a encore qui partagent cette idée. Et les partis politiques, évidemment, de droite et d'extrême droite, eux aussi récusent le terme de génocide, continuent à le récuser.
C'est le cas de l'AFD, notamment. Il faut rappeler aussi que ce génocide en Namibie, vous le disiez tout à l'heure, a complètement bouleversé les équilibres démographiques du pays. Les Herero étaient majoritaires, ils étaient propriétaires. Enfin, c'était une ethnie plus riche. Ils se retrouvent aujourd'hui extrêmement minoritaires et paupérisés. Et c'est en lien notamment avec la confiscation des terres à l'époque.
Les Allemands ont fait souffrir ma grand-mère. Elle a grandi parmi des étrangers et a été obligée de parler une langue étrangère. Nous vivons dans la pauvreté à cause de ce qu'ils nous ont fait, qu'ils nous rendent notre dignité et notre terre.
Nous ne possédons pas de terres. Les Blancs ont des terres. Les citoyens allemands qui sont aussi ici ont des terres. Nous voulons une reconnaissance, des excuses et ensuite nous devons parler des réparations. Nous n'avons pas fixé de montant, mais cela doit être négocié avec nous, les Hereros, et non pas avec le gouvernement namibien et avec des personnes censées être les représentantes des Hereros.
Christine de Jemeaux, témoignage de descendants de victimes extrait d'une vidéo du journal Le Monde publiée en 2021. Vous nous disiez tout à l'heure que les chefferies Herero et Nama s'étaient opposées à l'accord d'aide au développement dont on parlait de 1,1 milliard d'euros. Est-ce que cela signifie qu'ils ne font pas confiance à l'État namibien pour leur reverser ces éventuelles indemnités qui seraient versées par l'État allemand?
Oui, le problème est là, effectivement. Les chefferies et les groupes ethniques voudraient obtenir l'argent directement pour compenser les pertes subies. Il faut savoir que les Hereros étaient 40% de la population, qu'ils avaient plus de 40% aussi des terres. Aujourd'hui, ils représentent à peine 7%. Et la plupart d'entre eux sont employés, par exemple, comme balayeurs à Windhoek ou comme conducteurs d'autocars. Enfin, ils ne sont plus les riches propriétaires de bétail qu'ils étaient à l'époque coloniale. Ils ont vraiment été laminés.
Et quelles sont leurs revendications en ce sens? Est-ce qu'ils demandent une réforme agraire? J'ai pu lire en préparant cette émission aussi qu'il y a des demandes envers la minorité qu'on appelle germano-namibienne, qui sont les descendants des colons qui vivent aujourd'hui en Namibie, je crois entre 20 et 40 000 personnes, et qui sont des propriétaires terriens. Donc, est-ce qu'il y a des revendications très concrètes pour une redistribution des terres?
Oui, alors de la part des ethnies, on demande que la RFA rachète les terres aux colons germano-namibiens qui sont encore sur place, et qu'ensuite ces terres leur soient réaffectées à eux, les Nama et les Herero. Vous voyez, il y a cette demande qui, pour le gouvernement namibien, n'a même jamais été envisagée. Pas du tout. Le gouvernement namibien, lui, voudrait profiter des réparations financières pour développer le pays dans l'ensemble, si vous voulez. Mais il n'est pas question de donner cet argent en totalité aux ethnies victimes à l'époque des Allemands. Donc là, il y a une divergence totale.
Et cette communauté germano-namibienne descendant des colons, comment... Alors on peut imaginer évidemment qu'ils ne s'expriment pas ou ils ne pensent pas tous de la même manière. Que sait-on de la façon dont ils ont réagi à la reconnaissance du génocide? Quel rapport ont-ils, eux, à ce passé-là?
Alors, la grande majorité, si vous voulez, dans l'union des amis de l'Allemagne coloniale allemande, qui existe encore, ne reconnaît pas qu'il y ait eu des génocides.
Hein. L'union des amis de la période coloniale allemande.
Oui, c'est ça.
C'est une des organisations qui existe
en
Namibie.
Oui, oui, oui. Ils ne reconnaissent pas du tout les génocides. En revanche, il y a une nouvelle association qui s'appelle le Forum des Namibiens germanophones qui a une opinion différente, c'est-à-dire qui voudrait une réconciliation et qui donc reconnaît les génocides et voudrait que on trouve des terrains d'entente. Voilà. Mais ces Namibiens allemands, ils sont encore très nombreux, ils ont encore plus de 50% des terres. C'est-à-dire des exploitations agricoles qui sont gigantesques. Elles vont jusqu'à 15 000 hectares. Quand vous parcourez la Namibie du nord au sud sur l'axe principal, vous voyez des barbelés sur 40 kilomètres. Et c'est toujours la même exploitation. Et elle est tenue en général par un descendant de colons allemands qui eux-mêmes cultivent leur langue. À la maison, on continue à parler allemand. Il y a des écoles allemandes, il y a une presse allemande, il y a une Allgemeine Zeitung, un journal en allemand qui paraît, il y a des librairies allemandes qui vendent des livres en allemand et notamment des récits, des mémoires de l'époque coloniale allemande. Donc il y a encore une forte communauté qui est très riche. Certains ont même, par exemple, les descendants de l'armateur Woermann, qui a été la grande entreprise maritime qui a lancé la colonisation, ben les descendants possèdent maintenant la plupart des supermarchés en Namibie.
Vous écoutez Culture Monde, second épisode de notre série Réparation coloniale, une quête mondiale. Aujourd'hui, la Namibie qui demande justice auprès de l'Allemagne pour le premier génocide du XXe siècle. Et tout de suite après la musique, on évoque une autre ancienne colonie allemande, la Tanzanie. Song.
la polémique actuelle.
Shark Island est une presqu'île de la côte namibienne. Son nom est associé à l'un des plus terribles camps de concentration de l'époque coloniale allemande en Namibie. L'artiste électro-français Tilassine, associé à des chanteurs et des chanteuses de Namibie, rendait hommage aux victimes de ce camp avec ce titre Shark Island, sorti en 2025. Direction à présent l'Afrique de l'Est pour évoquer une autre ancienne colonie allemande, la Tanzanie.
France Culture. Culture Monde, Mélanie Chalandon.
J'ai honte de ce que les soldats coloniaux allemands ont fait à vos ancêtres, à leurs alliés et à beaucoup d'autres dans la région de l'actuelle Tanzanie. Je vous demande pardon et je tiens à vous assurer que nous, Allemands, chercherons avec vous des réponses aux questions qui vous tourmentent.
Ce sont des excuses officielles que le président allemand Frank-Walter Steinmeier a présentées en novembre 2023 au peuple tanzanien pour les violences commises par les troupes coloniales entre 1885 et 1918. Plusieurs révoltes avaient alors été réprimées dans une grande violence, une histoire douloureuse qui fait aujourd'hui l'objet de demandes de réparation en Tanzanie. Bonjour Dionys Kindata.
Oui, bonjour, merci beaucoup de cette occasion, j'ai dit,
Bonjour et bienvenue dans l'émission. Vous êtes doctorant en histoire, en co-tutelle aux universités de la Sorbonne Nouvelle et à la Leuphana Universitat de Lunebourg. La présence allemande en Afrique orientale allemande, qui comprenait à l'époque la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, il faut le rappeler, est d'une relative courte durée, si on la compare aux autres puissances coloniales, une trentaine d'années. Cette colonie est confisquée en 1919, récupérée par les Britanniques. Et les Britanniques ont tenté d'effacer les traces de cette période. Quelle mémoire, quelle trace néanmoins reste-t-il de cette période coloniale allemande en Tanzanie ?
Si on part de la colonisation allemande en Tanzanie, il y a quelques traces de Allemands qui sont jusqu'à maintenant restés là-bas. Premièrement, on regarde l'architecture et les infrastructures coloniales. Par exemple, on trouve les bâtiments construits sous l'administration allemande à Dar es Salaam et quelques villes en Tanzanie. Notamment d'anciennes missions, des bâtiments administratifs qui sont appelés le Boma, qui sont restés jusqu'à maintenant. Et il y a aussi le monument colonial, par exemple à Dar es Salaam, qui témoigne de cette période, comme le monument de Wissmann, qui fut plus tard transformé en escale monument. Et il y a aussi le mémoire local. Ici, le mémoire local est particulièrement vivé dans les régions ayant subi une répression intense comme Iringa ou le Chifumkwawa résistant aux Allemands ou encore le sud de la Tanzanie, profondément marqué par la guerre des Majimaji. On voit dans cette région, de musée existe aussi et les traditions orales continuent de transmettre les récits de la violence coloniale. C'est sous les aspects. Ouais.
Pardon de vous couper, Dionys Kindata. Justement, vous évoquiez que l'Allemagne a laissé de l'architecture, des infrastructures. Elle a aussi laissé un souvenir très douloureux lors de la répression d'une révolte qu'on a appelée la guerre du Maji-Maji. Vous l'évoquiez à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui avait déclenché l'insurrection de la population à l'époque?
Ah ouais, le Maji-Maji c'était causé par quelques raisons, par exemple parce que les Allemands ils ont imposé le travail forcé, notamment dans les plantations de coton, et ils ont aussi introduit un impôt de capitation accompagné de chertema corporelle pour les contrevenants et une politique autoritaire qui perpétue profondément les structures sociales et économiques locales. Et le Maji-Maji dans certaines régions, ces musiques ils ont provoqué la famine quand les populations se contraintent de laisser les cultures vivières. Et face à cette situation insupportable, une révolte organisée, et il y a une personne qui a été à la frontière de organiser cette révolte qui s'appelle Kinjekitile Ngwale. Et ce qu'il a fait, c'est il a appelé les populations à se soulever et affirme que il y a l'eau sacrée qui s'appelle Madi qui va transformer les balles allemands à nous. Donc les gens ils sont fait la confiance à lui, mais il avait l'échec en raison, par exemple, de la supériorité militaire allemande, parce que les Allemands, ils étaient bien armés. Et pour le côté tanzanien, la coordination était faible.
Plus de 100 000 morts, selon les travaux des historiens, dans la répression de cette révolte, la guerre du Maji-Maji. Quelle est la place aujourd'hui de la mémoire de cette tragédie en Tanzanie? Est-ce que ces événements sont commémorés?
Ah oui, si la place de Madi Madi ou bien le mémoire de Madi Madi en Tanzanie, c'est un peu complexe, mais on peut voir quelques aspects pour l'État tanzanien. On voit que depuis l'indépendance en 1961, l'État mobilise le Madi Madi comme le symbole de la première résistance nationale unifiée. Donc, par exemple, le premier président, Julius Nyerere, l'intégrer dans une lecture pan-ethnique afin de renforcer l'unité nationale et l'idéologie de Ujamaa. Toutefois, il n'existait pas de fête nationale dédiée au Madi Madi. Cette mémoire reste surtout présente dans l'enseignement de l'histoire ou est sous forme de mémoire orale. Et un autre aspect, c'est les artères culturelles. Depuis les années 1970, les écrivains de romans, poèmes, chansons et pièces de théâtre, ils étaient inspirés par la guerre de Madi Madi et en fait, il y a aussi les institutions académiques et muséales qui s'engagent aussi le mémoire de Madi Madi. Par exemple, il y a le Madi Madi Memorial Museum qui se trouvait à Tanga, qui jouait leur important de la préservation de cette mémoire. Et après, il y a les universités, par exemple, les universités de Dar es Salaam qui portent de la recherche, etc. Ouais.
Et il y a Dionys Kindata aussi, des demandes de réparation qui ont été émises par la Tanzanie envers le gouvernement allemand. Est-ce que ces demandes ont été entendues?
Oui, il y a le demande de réparation, mais si on regarde sur le dialogue, parce que le dialogue entre la Tanzanie et l'Allemagne a connu une avancée importante lorsque le président allemand Frank-Walter Steinmeier, de sa visite en novembre 2023, a présenté des excuses officielles pour les atrocités commises par les forces coloniales allemandes, notamment de la répression de Madi Madi. Cependant, de nombreux Tanzaniens estiment que ces excuses restent symboliques et demandent, comme vous avez dit, une reconnaissance plus complexe des injustices coloniales, une meilleure intégration de cette histoire dans la mémoire publique et les programmes scolaires allemands, où le colonialisme en Afrique de l'Est est encore très peu enseigné. Donc, les débats se portent...
Oui, pardon, j'allais faire réagir Christine de Jemot sur ce point-là précisément, qu'il s'agisse du passé colonial en Tanzanie ou en Namibie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très peu enseigné en Allemagne.
Oui, ce passé colonial en Afrique n'est pas enseigné et n'apparaît pas dans les livres scolaires, absolument pas. Donc, on peut passer son bac en Allemagne sans avoir eu connaissance des faits qui se sont produits en Afrique sous l'époque coloniale allemande.
Dionys Kindata, cela fait partie des revendications des Tanzaniens. Que ce passé soit davantage connu et enseigné.
Ouais. Oui, c'est enseigné au niveau primaire et secondaire. Et au niveau primaire, c'est obligatoire. Mais secondaire, c'est certaines matières. Mais en Tanzanie, presque tous les élèves, ils connaissent que ça passait dans cette période. Mais il peut mentionner quelques événements, mais notamment du Maji Maji. Il peut même aussi vous dire quels sont les gens qui étaient à la frontière de la révolte. Les Allemands, ils ont apporté quoi? Il peut vous mentionner quelques gouverneurs allemands, etc. Même quelquefois, il manque de gens et ils s'appellent entre eux que vous appelez Wiesmann, parce que le Wiesmann est très brutal et les gens lui nommaient Mkono Adam, par exemple. Donc en Tanzanie, la connaissance c'est bien fondée et les gens ils connaissent beaucoup, mais par contre, en Allemagne, c'est un peu complexe.
Cette connaissance n'est pas réciproque. Ouais. Pardon de vous couper, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Dionys Kindata pour vos éclairages sur la question tanzanienne. Je renvoie vers votre article « La colonisation allemande en tant que mémoire collective dans les communautés tanzaniennes ». C'est paru dans la revue Allemagne d'aujourd'hui en 2024. Merci beaucoup Christine Dejemeau de nous avoir accompagnés pour la première partie de l'émission. Je rappelle professeur émérite de Civilisation et histoire des idées allemandes à l'université de Tours. Votre ouvrage « Femmes et génocide, la colonisation allemande du sud-ouest africain en Namibie, 19e, 21e siècle » est paru aux éditions Hermann. Et tout de suite, la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Une escalade chiffrée par l'armée israélienne. 845 crimes recensés, commis donc par des colons en Cisjordanie occupée, faisant au moins 200 blessés et 4 morts parmi les Palestiniens, précise Middle East Eye. Dans les secteurs de Naplouse, de Ramallah et d'Hébron, lien direct entre cette violence et la colonisation qui s'accélère, souligne l'armée israélienne et le quotidien Haaretz. L'armée s'inquiète de cette montée en puissance de groupes organisés, de milices soutenues par des personnalités politique d'extrême droite depuis les attaques terroristes du 7 octobre, c'est un déferlement de violence qui s'abat sur la Cisjordanie occupée au point de menacer la stabilité régionale, ajoute l'armée et le quotidien israélien Haaretz. B'Tselem va même plus loin. Cette ONG israélienne qui défend les droits des Palestiniens dans les territoires occupés estime, dans un édito pour le Jerusalem Post, qu'Israël utilise des milices armées pour procéder, je cite, un nettoyage ethnique en Cisjordanie, avec des raids violents, parfois menés par des dizaines de colons armés, des incendies de champs, des abattages d'arbres, des vols de bétail, des incendies de maisons et de propriétés, des jets de pierres et même des assassinats de Palestiniens en plein jour, parfois filmés. Mi-novembre, dans le village d'Al-Jaba, près de Bethléem, un groupe de colons au visage masqué a attaqué à coups de pierre et de bâton une voiture, à bord, deux fillettes, deux sœurs d'un an et quatre ans, leur mère et leur oncle. Les assaillants ont également incendié deux autres voitures et caillassé cinq maisons du village, rapporte le Jérusalem Post. Cette violence des colons n'est qu'un euphémisme, un terme qui sert à se dédouaner de toute responsabilité, accuse l'ONG B'Tselem dans les colonnes du Jérusalem Post, car les dizaines de bases d'où émergent les assaillants sont connues des autorités qui fournissent à ces avant-postes pourtant illégaux de l'électricité et de l'eau courante. Les quads et les drones utilisés par les colons lors de certaines attaques ont été distribués par des ministres d'extrême droite tels que Bezalel Smotrich, dénonce encore l'ONG israélienne B'Tselem dans cet édito pour le Jerusalem Post. L'armée israélienne critique, elle, l'absence de réaction adéquate de la part de la police et du Shin Bet, l'agence israélienne de sécurité intérieure. Le fossé se creuse entre la gravité des faits et la mise en œuvre concrète de mesures pour enrayer cette violence, déplore un officier cité par le journal Haaretz. Un Palestinien de 60 ans, Saïd Al-Amour, a perdu sa jambe droite sous le tir de colons dans le village d'Al-Rakiz en Cisjordanie occupée. Et aujourd'hui, il est constamment harcelé, raconte le quotidien Haaretz, vidéos à l'appui. Cet agriculteur qui refuse de vendre ses terres s'est vu confisquer ses béquilles par des colons régulièrement arrêtés. Il a aussi été jeté à terre par un soldat et a depuis porté plainte, mais pas question pour lui de quitter sa maison au sud d'Hébron.
Mais Catherine, d'autres Palestiniens de Cisjordanie occupés sont contraints de déménager.
Au milieu des collines rocailleuses du nord de Jéricho, cette fois, des dizaines de familles palestiniennes ont chargé leurs biens sur des camionnettes, des tentes et des enclos pour le bétail. Impossible pour elles de résister à la pression quotidienne des colons, raconte le journal Haaretz. Des jeunes, des adolescents, parfois se spécialisent dans les agressions contre les Palestiniens. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, cité par la BBC et Middle East Eye, dénonce, lui, l'intensification de la discrimination et de la ségrégation exercée par Israël. Elle s'apparente à une forme de système d'apartheid à l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, qu'il s'agisse d'avoir accès à l'eau, aux écoles ou encore aux hôpitaux, ou qu'il s'agisse de pouvoir aller voir des proches ou d'aller récolter des olives. Chaque aspect de la vie des Palestiniens en Cisjordanie est contrôlé et restreint, insiste le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. À plusieurs reprises, Donald Trump a intimé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de changer de cap sur la Cisjordanie. Hors de question pour Washington de laisser Israël annexer ce territoire, rapportent Yedioth Ahronoth et Israël Hayom. Les associations de défense des droits humains attendent, elles, des actes au-delà des paroles.
Et pour terminer, Catherine, quelques mots d'une application insolite en Chine.
Elle s'appelle Êtes-vous mort ? Et c'est l'application payante la plus téléchargée en Chine, note The Standard et la BBC. Alors son concept est simple, il vous suffit de vous connecter tous les deux jours en cliquant sur un gros bouton pour confirmer que vous êtes bien en vie. Dans le cas contraire, l'appli contactera en urgence l'un de vos proches et l'informera d'un potentiel danger. Et cela traduit une réalité démographique très sérieuse en Chine, souligne le Financial Times et la BBC. De nombreux jeunes choisissent de vivre seul plutôt que de se marier et de fonder une famille. Et dans le même temps, de plus en plus de personnes âgées se retrouvent isolées chez elles, sans famille à proximité pour s'occuper d'elles. Une crise démographique qui se traduit aussi depuis le 1er janvier en un nouveau système fiscal en Chine. Les services de garde pour enfants sont exemptés de taxes alors qu'une TVA est instaurée sur les préservatifs notamment. Pékin cherche à tout prix à relancer sa natalité.
Merci beaucoup Catherine Dutu. On vous retrouve demain pour la revue de presse dans la matinale de Guillaume Erner. Et demain dans Culture Monde, suite de notre série sur les réparations coloniales, il sera question du Niger qui entend réécrire son histoire et faire payer la France pour les massacres commis, notamment par la mission Voulet-Chanoine. Et dans un instant, les midis de culture par Marie Laborie.